Totem, le club sang et or. Corentin Monnier, Jean-Charles Virlogeux.
Bonne soirée avec le club sang et or. Jean-Charles Virlogeux a passé son tour de coupe. Il est allé lui chez le coiffeur. Bonsoir Jean-Charles.
Non, il faudrait d'ailleurs.
C'est vrai, vous avez des petits cheveux qui rebiquent. Lui c'est a passé le 8e tour de Coupe de France et a fêté dignement son anniversaire sur le terrain. On ne s'intéresse qu'aux sportifs, évidemment. Antoine Valerio, bonsoir.
Bonsoir.
Mais bon anniversaire quand même.
Oui, en retard.
Oui.
24 heures seulement. Vous acceptez, vous pardonnez ?
Je pardonne et j'accepte.
Bon, parfait, merci. On va revenir sur la rencontre de ce samedi face au Stade Mayennais. Victoire 9-1 contre cette R1. On rappelle que le dernier tour de Coupe de France, là aussi, c'était contre une R1. Une victoire 3-0 face à Liffré. Bon, le score n'est pas le même. Est-ce que c'était plus facile finalement que lors du tour précédent ?
Plus facile, je sais pas. Il y a quand même un gros facteur qui a changé la donne par rapport au dernier match, c'est le terrain. C'était très 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 compliqué. Après, je pense que ce qui nous a facilité la tâche, c'est qu'on est très vite marqué en première mi-temps. On a marqué 1 et on a enchaîné ensuite. Et après, en deuxième mi-temps, on a déroulé pareil. Donc,
avec le pénalty de Clément Després dès la 5e minute de jeu.
C'est ça. Donc ça permet de déjà de pas forcer les choses pour marquer ce premier but. Ce premier but, il est toujours très important, surtout face à ces petites équipes. Et là, on le marque de suite, on se relâche, on peut bien placer notre jeu et continuer de dérouler ensuite. Donc, on a bien fait les choses, je pense.
C'est vrai que vous ne les avez pas laissés respirer, effectivement. Dans ce type de rapport de force, justement, très déséquilibré, c'est le mieux, ça, étouffer un adversaire qui, du coup, va souffrir techniquement, j'allais dire, pour ressortir le ballon. Il est vraiment piégé.
Techniquement, oui, et puis aussi physiquement. Mm-hmm. On a un rythme d'entraînement qui est quand même...
supérieur à des amateurs.
Ouais, voilà. Donc, on se doit d'être plus frais, de pouvoir répéter les efforts de façon plus intense. Donc... là où ça peut poser problème, effectivement, c'est si ça avance et qu'il y a 0-0, il peut y avoir des fois de la panique qui s'installe. Et eux, sur un terrain comme ça, comme on a eu ce week-end, une action, un joueur qui glisse, ils peuvent marquer. Ou même, des fois, il y a des équipes qui jouent tout simplement bien et qui marquent un but et après qui mettent le but, et ça devient de suite plus compliqué, quoi.
Et on peut imaginer que la supériorité à la fois technique et physique, elle se manifeste plus facilement avec du gros pressing, par exemple, plutôt que de leur laisser le ballon et d'avoir des duels où on peut se blesser ou...
Totalement. On s'est dit avant le match qu'il fallait qu'on enclenche un pressing, qu'on les étouffe, quoi, pour les forcer à nous rendre le ballon et nous, ensuite, qu'on ait le contrôle du jeu. Et voilà.
Ouais. Alors, 3-0 à la mi-temps dans ce match. C'est vrai que Rodez aurait pu très bien s'en contenter, hein, c'était quasiment plié. Surtout qu'il y a d'autres échéances, il y a besoin d'énergie pour le championnat. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à continuer à appuyer ? Parce que vous avez continué à appuyer jusqu'à 9. Hein.
On a appuyé, on a déroulé notre jeu. On n'a pas forcé les choses plus qu'autre chose. Juste, on avait les possibilités de marquer. Et quand on a les possibilités de marquer, on ne va pas tirer à côté juste parce qu'il y a 3-0. Enfin... on se doit, le coach nous l'a dit, on se doit de respecter l'adversaire. S'il faut qu'on en mette, c'était 9. Si on doit en mettre 9, on en mettra 9.
C'est la loi du sport, finalement.
Voilà, c'est ça. C'est comme ça. Il faut respecter l'adversaire. S'il faut en mettre 8, on en met 8. S'il faut en mettre 3, et si on peut qu'en mettre 3, on n'en met que 3. Mais on se doit de respecter l'adversaire.
Mais que ce soit en Coupe de France comme en championnat.
Tout à fait.
Respecter, c'est dans tous les sens du terme, effectivement, quitte à enfoncer le clou. C'était aussi une occasion, peut-être, pour des joueurs pas toujours titulaires, de montrer leur talent, de profiter du temps de jeu. Est-ce que vous le voyez comme ça, vous qui n'êtes pas toujours titulaire, vous l'avez aussi vécu comme ça, saisi comme ça, cette chance ?
Oui, le match de coupe, c'est aussi une occasion de prendre du temps de jeu, de reprendre du rythme, et oui, après, de montrer ce qu'on sait faire. Après, je pense que... les coachs sont au courant de nos qualités, donc on n'a pas besoin de prouver tant que ça. Quoi qu'il arrive, c'est eux qui feront les choix. Mais oui, effectivement, marquer, c'est toujours important et ça fait toujours du bien au moral. Et après, physiquement, comme vous l'avez dit, de pouvoir jouer, c'est toujours bien.
Oui, Sébastien.
C'est le traditionnel tour de coupe. Il faut rendre hommage à Sébastien Cibois qui avait réalisé des parades lors de l'édition dernière. Nouveau clean sheet, effectivement réalisé par Sébastien Cibois. On fait une petite aparté par rapport à sa participation lors de cette rencontre également. À titre personnel, Antoine, vous avez marqué un doublé. C'est une première dans votre carrière, en tout cas, selon les chiffres que nous avons avec les adultes. On n'a pas compté la carrière des jeunes. Est-ce que c'est le cas ?
C'est le cas, ouais, c'est le cas.
Premier ça vous fait
doublé.
Quoi ?
Ça m'a fait très très plaisir. En plus, il y avait mes parents qui sont venus au match. Donc j'étais très content de pouvoir marquer ce doublé et qu'il soit là pour le voir.
Est-ce que ça veut donc dire que quand il y a la famille qui est spectatrice de la rencontre, on se donne à 300%?
Alors on se donne toujours à 300% parce que même quand elle n'est pas là, elle peut voir à la télé, donc on a toujours une envie de se donner. Et puis pour les coéquipiers, c'est pareil, on se donne à 300%. Mais le fait de marquer et de se tourner, regarder vers la tribune et de les voir, oui, ça fait quelque chose. Quelque chose quand même.
Un petit pincement au cœur.
Ouais, non, pas un pincement au cœur, mais j'étais content.
On célèbre pas de la même manière.
Voilà.
Ok. Bon, en tout cas, on va revenir également sur cette saison qui est la saison la plus prolifique pour vous, pour l'instant, puisque vous avez au compteur 3 buts, une passe D, toutes compétitions confondues. Vous jouez peut-être un petit peu moins, mais vous êtes plus décisif. Comment vous arrivez à l'expliquer finalement, ce ratio-là? On rappelle qu'en championnat, vous avez marqué notamment face à Saint-Etienne.
Ouais. Plus en confiance, je pense. Et puis on a un jeu qui s'est étoffé sur la deuxième partie de saison et là qui se confirme aussi en ce début de saison. Et donc on a beaucoup plus d'automatisme avec les attaquants, avec les autres milieux. Et ce qui fait que pour se retrouver dans des situations où on est dangereux, c'est un peu plus naturel, quoi.
Est-ce que c'est les consignes qui ont changé entre Laurent Peyrolade et Didier Santini, ou selon vous, pour vous?
Selon moi, oui, il y a eu un changement en termes de principe. Il y a eu un changement dans ce que demandait le coach et dans ce qu'il attendait de nous. Et du coup, le style de jeu et la façon dont on jouait a changé aussi par la même occasion, quoi.
L'an dernier, vous avez été titulaire 7 fois en championnat et vous avez participé à plus d'un tiers des matchs. Vous avez débuté quasiment tout le temps lors du beau parcours de Rodez en coupe. Hein. Vous êtes allé jusqu'en quart de finale, on le rappelle. Cette saison, vous avez beaucoup été aligné en début de saison et puis beaucoup moins ensuite. Vous l'attribuez à quoi, ça?
Je pense que c'est...
La concurrence?
Ouais, je pense que c'est ça, la concurrence. Voilà, j'ai commencé, j'ai fait mes performances. Giovanni a ensuite enchaîné et les résultats de l'équipe ont suivi par la même occasion. Donc, c'est quelque chose qui a déroulé ensuite. Voilà. Donc, la concurrence, je pense.
On pourrait même dire, enfin, on va revenir dans un instant, mais que c'est pas le même rôle. Vous n'êtes pas dans les mêmes caractéristiques entre Giovanni Hague et vous.
Totalement.
Vous êtes dans le même secteur de jeu, mais vous n'avez pas les mêmes caractéristiques.
Ouais, voilà. On n'a pas le même style de jeu, voilà.
Pour vous, du coup, c'est lié à une évolution peut-être du style de jeu de Rodez au cours de la saison ou pas?
Je pense que c'est lié à ce que le coach attend, peut-être qu'il attend plus de choses de moi. Effectivement, dans certaines choses que montre Giovanni à ce poste-là. Mais pour l'instant, je reste déterminé à aller récupérer ce temps de jeu et cette place, quoi. Mais la concurrence se passe bien.
Ouais.
Le temps que le résultat de l'équipe se passe bien aussi, je suis très content. Après, reste un compétiteur, j'ai envie de jouer tous les matchs, mais avant tout, l'équipe reste le plus important, quoi.
Ouais. Donc vous le vivez plutôt bien, vous ne vous dites pas « ça y est, je suis condamné à jouer le rôle de doublure jusqu'à la fin de la saison ».
Non.
Vous espérez bien encore bousculer, rebousculer la hiérarchie, alors.
Oui. Et puis, y a toujours des moments où, dans une saison, ça arrive. L'année dernière... Il y a eu des suspensions. Une équipe, au cours de la saison, ça tombe toujours. Donc, non, il n'y a pas d'inquiétude à ce
sujet. Est-ce qu'à l'image d'un Giovanni Hague, vous êtes capable d'enfiler les gants pour aller dans un rôle de gardien de but?
Peut-être pas. Peut-être pas. J'espère que ce n'est pas ça qui manque. Parce que... Non, peut-être pas.
On sait que Rodez a connu une période faste à la rentrée et au début de l'automne. Et c'est vrai que ce n'est pas facile, du coup, de reprendre sa place dans un collectif qui marche bien comme ça. Vous avez retrouvé une place de titulaire contre Bastia fin octobre. C'était la première fois depuis 2 mois. Ça n'avait pas été un match facile, hein, de mémoire pour vous. Je ne sais pas si vous l'avez vécu comme ça, vous aussi.
Ouais, c'était un match difficile. Il y avait un peu de pression, je m'étais mis peut-être un peu trop de pression aussi.
Oui, vous êtes dit c'est ma chance, il ne faut pas la rater.
C'est ça.
Ouais.
Et en général, ça se passe jamais très bien quand on pense comme ça. Et après, Bastia avait pour moi fait un non-match, c'est-à-dire qu'ils avaient refusé tout jeu. C'est des matchs aussi qui sont pas faciles contre ces équipes-là et sur ces équipes qui refusent et qui font un bloc très bas. En général, on a un peu de mal. Et là, ça avait été le cas en première mi-temps, et donc oui. Puis après, ça arrive de passer un peu à côté de ces matchs aussi.
Ouais. Et c'est compliqué de se retrouver au milieu de joueurs qui, du coup, ont des automatismes. Vous revenez un peu dans ce 11 titulaire, et ça aussi, ça demande un temps d'adaptation.
Oui, ça demande un temps d'adaptation. Après, c'est à moi de faire les choses et c'est à moi de m'adapter, quoi. Je peux pas demander à l'équipe d'attendre et de se dire ouais, mais attendez, j'ai pas joué les derniers matchs, attendez-moi.
Molo.
C'est pas comme ça que ça marche. Je dois m'adapter. Je suis passé à côté. J'ai pas été à la hauteur de ce que je pouvais, ce que j'avais fait avant et ce que j'avais montré. Du coup, voilà, c'est comme ça.
Oui. Pas de fatalité en tout cas dans votre discours, on l'a bien compris. Et il y a en tout cas l'intention de retrouver pourquoi pas encore plus de temps de jeu. Bah, vous avez fait des bonnes entrées, on en a souligné notamment Concarneau ou encore
oui.
Se doubler en Coupe de France. Bah, justement, la Coupe, elle va se continuer pour Rodez. Rodez qui continue l'aventure, Jean-Charles. L'occasion de s'intéresser à un de vos rendez-vous préférés.
J'ai pas dit que t'étais un con. Hein. J'ai dit que globalement, la question, elle est con.
Le rendez-vous de la question à la con.
Ouais, est-ce que vous avez un message, Antoine, pour le Père Noël, à qui vous aviez demandé, on le rappelle, hein, dans votre lettre, un match à la maison en Coupe de France?
Alors, ça serait bien un match à la Coupe à la maison, parce que ça fait quand même trois déplacements qu'on va faire qui sont un peu loin. Et un autre message au Père Noël, qu'est-ce que je pourrais demander? Mes crampons s'usent. Si je pouvais avoir une paire de crampons pour Noël, ça serait pas mal.
La taille, pour l'aider quand même?
44.
Allez, un bon 44 pour Antoine Valério, et on espère voir une petite boîte enroulée d'un beau papier au pied du sapin.
Et oui, parce qu'on le rappelle, le tirage c'était hier. Vous êtes donc tombé sur Chaland, qu'il va falloir appâter, mais surtout qu'il faudra aller battre. Club vendéen, pensionnaire de National 3. Alors on va dire, je ne sais pas comment vous l'avez vécu ce tirage, mais quitte à ne pas jouer chez soi, autant hériter d'un adversaire à sa portée, entre guillemets.
Oui, c'est vrai que ça serait bien de tirer effectivement un gros à domicile, si jamais on doit en tirer un. Et puis après... un adversaire à sa portée, oui, un match contre une N3, ça va être un match qu'on se doit de gagner parce qu'on est en Ligue 2 et on doit le gagner professionnellement, sinon ça va être comment dire, pas une faute professionnelle, mais presque. Donc y a quand même un peu de pression, et puis c'est un match de coupe, tout peut se jouer sur un match, donc à voir.
C'était quoi le sentiment dans le groupe d'ailleurs après le tirage? Plutôt déçu de ne pas jouer chez vous. On rappelle 25e match de suite à l'extérieur, mais c'est incroyable.
Oui, il y a de la déception, c'est sûr. Il y a de la déception, on voulait jouer à la maison, mais ça nous donne une raison de passer ce tour encore plus, et pour avoir, on l'espère, un tirage à domicile sur le prochain match, quoi.
Et plus les tours passeront, plus il restera que des gros, avec peut-être la chance. C'est vrai que Rodez... Il y a une explication, il n'y a pas qu'une malédiction, il y a aussi une explication rationnelle, c'est que en étant en Ligue 2, forcément, il n'y a plus d'inversion des matchs. Hein, donc, si vous tombez sur un petit, il y a inversion des matchs. Oui. Si vous tombez sur un petit, c'est forcément chez lui de toute façon.
C'est ça.
Mais en règle générale,
division d'écart.
Voilà. En règle générale, de toute façon, Rodez est quand même tiré en deuxième, quoi qu'il arrive. Vous êtes prêt à faire encore un petit peu de bus alors?
Prêt. Après. Quand on gagne, les trajets de bus se passent très bien, donc on va aller chercher la victoire et ça se passera très bien aussi.
On a vu qu'en tout cas, ça ne vous avait pas découragé ni déconcentré pour le match dernier. Au contraire, on avait l'impression que vous aviez envie de vous dégourdir les jambes sur le terrain.
Bah, c'est vrai qu'en tout cas, ça va apporter du rythme à cette fin d'année, puisque les rencontres vont s'enchaîner. On rappelle que la Coupe de France, elle, sera de retour qu'à partir de début janvier. Avant ça, il y aura eu le retour du championnat.
Totem, le club sang et or. Corentin Monnier, Jean-Charles Virlogieux.
Avec Antoine Valério qui est notre invité, le milieu de terrain du Rodez Aveyron Football ce samedi. Réception d'Amiens en championnat. Amiens qui a passé là aussi des tours de Coupe de France contre Hambourg-Haut.
C'est pas en Allemagne, hein, Hambourg.
7e tour. Non, c'est pas très très loin de l'Allemagne.
Ah, d'accord. Absolument.
Et 8e tour ce samedi contre une N3 Taron. Ils partiront affronter Montpellier en janvier prochain. Pas un tirage très chanceux, en tout cas pour les joueurs d'Amiens. En championnat, 11e, Amiens, avec donc le même nombre de points que Rodez, 23. Rodez est devant en première partie de tableau grâce à la différence de but de 1 point de plus, donc un but de positif par rapport à Amiens qui est à moins 4. Il reste 2 journées en comptant samedi dans la phase aller. Amiens qui alterne le bon et le moins bon, capable à la fois de battre Auxerre en début de saison ou plus récemment Saint-Etienne. Saint-Etienne qui au passage a changé d'entraîneur. C'est Olivier Dalloglio qui va reprendre les rênes de cette équipe stéphanoise, mais aussi capable de perdre contre Bordeaux ou plus récemment Troyes. Amiens qui a fait sensation avec une de ses recrues à la carrière extraordinaire, Andy Carroll, l'attaquant international anglais arrivé cet été qui a connu des clubs prestigieux comme Newcastle ou encore Liverpool dans les années 2010. D'autres joueurs qui ont de l'expérience, Sébastien Corchia, Gaël Kakuta ou encore Régis Gartner qui a célébré lui aussi il y a quelques jours son anniversaire. Vous n'avez pas tout à fait le même âge avec Régis Gartner, Antoine. 37 ans pour Régis Gartner. De l'expérience sur le terrain, mais aussi sur le banc de touche, puisque l'équipe est dirigée par Omar Daff, un ancien de Sochaux ou encore de Dijon, qui va diriger son 18e match avec Amiens à l'occasion de la 18e journée de Ligue 2. Un match nul n'arrangera donc personne, car il permettrait à Caen, Bastia ou encore Paris FC de monter dans la première moitié de classement. Match à vivre en tout cas samedi à partir de 18h45 dans l'intégrale Saint et Or.
Il faut rappeler que Omar Daff, quand il était à la tête de Sochaux, avait souvent réussi à bien enquiquiner Rodez hein, durant les premières saisons de Ligue 2. L'objectif, ça sera de terminer cette première partie de saison, de faire la fête avec le public grâce à une victoire, on imagine, évidemment.
Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est ce qu'on va aller chercher. Le match, comme je vous l'ai dit, le match de coupe aide à reprendre confiance et à se remettre dans le rythme et à garder le rythme surtout. Et ça aide à le garder le rythme pour ces matchs-là à la maison qui sont très importants. Il faut qu'on aille chercher ces victoires à domicile parce que pour le public et pour nous aussi, pour le classement, pour finir cette première partie de saison en beauté.
Ouais. Avant dernier match donc de la phase aller.
Avant de retrouver vos amis d'Annecy.
Voilà, les fameux sur le calendrier, les amateurs ne s'y seront pas trompés. Il y avait écrit encore à l'époque Sochaux-Montbéliard. Malheureusement, ça ne sera pas Sochaux-Montbéliard, ça sera bien Annecy. Et ça sera en milieu de semaine là aussi, les matchs s'enchaînent. C'est pas si dur que ça d'enchaîner les matchs finalement.
Non.
Parce qu'il y a eu des gros débats récemment, notamment dans le monde du football professionnel, sur la répétition des efforts. Beaucoup d'entraîneurs sont montés au créneau. En Ligue 2, il y a des matchs en semaine là aussi. Il y a des tours de coupe aussi qui s'ajoutent au calendrier. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, votre point de vue ?
Alors, mon point de vue, moi je suis content de... Plus il y a de matchs, plus on peut jouer. Mmh. J'ai cette vision à des choses. Je suis content de pouvoir jouer. Trois fois dans la semaine, c'est vrai que des fois, ça devient un peu lourd sur l'organisme. Mmh. C'est indéniable. Là, ce qui est bien, c'est qu'on enchaîne samedi Amiens, mardi Annecy, effectivement. Et après, on est en trêve, donc normalement, ça devrait pas trop tirer. Ça permet aussi, ces trois matchs dans la semaine, de faire tourner l'effectif et de donner, vous l'avez dit, en coupe, ça peut faire tourner l'effectif. Et bien là, sur ces trois matchs-là, ça permet de faire tourner l'effectif aussi pendant le championnat et donner du temps de jeu à d'autres joueurs qui en ont un peu moins.
C'est important pour la vie d'un groupe, en gros.
Tout à fait. C'est important pour ceux qui jouent un peu moins de ne pas se laisser délaisser. Ça leur permet de se sentir concernés par le projet et de continuer à apporter leur pierre à l'édifice. Une saison, ça ne se fait pas à 11, hein, ça se fait à 18, à 20. Donc c'est important que tout le monde reste concerné jusqu'à la fin, quoi.
Et c'est vrai que oui, ces semaines-là, pour le coup, elles sont précieuses pour un staff, hein, notamment pour gérer son groupe. C'est un peu comme les troisièmes matchs de Coupe du Monde. Si vous pouvez le laisser aux remplaçants, c'est quand même mieux, parce que sinon, ça commence à grincer des dents et à s'impatienter forcément chez les remplaçants. 23 points, on le rappelle, Rodez, pour le moment. Est-ce que le groupe s'est fixé un objectif de points à atteindre à la trêve? 23 points, c'est si on duplique cette première moitié de saison, a priori suffisant pour se maintenir, donc c'est bien parti, mais on peut peut-être prendre encore un peu plus d'avance, non?
Alors, on n'a pas fixé d'objectif de points, mais le but, c'est de prendre le maximum de points possible. On sait que cette première partie de saison, elle est hyper importante. Elle permet de prendre de l'avance et d'avoir de la marge, mais presque. En fait, plutôt que de commencer une première partie de saison où déjà on court après les points, où on est derrière au classement, la deuxième partie de saison elle est longue, c'est du combat. Là, on a fait une bonne première partie de saison, on sait ce qu'on doit faire dans la deuxième partie de saison, mais on a une petite marge à ce niveau-là, quoi.
Oui, ce serait bien d'attaquer avec un peu de confort année 2024.
Ça, c'est ça. Rappelons qu'il y a 5 points d'avance pour Rodez par rapport au premier relégable de cet épisode 2023-2024 qui est pour l'instant Bordeaux avec 18 points. 17e Bordeaux avec 18 points. Rodez en a 23 et est 9e de ce classement. Prochain rendez-vous sur le terrain ce samedi face à Amiens. Ce sera le match de la 18e journée de Ligue 2 BKT.
Il y aura une belle ambiance à Paul Lignon. Vous avez vu, il y aura du vin chaud pour vous.
Merci beaucoup.
Il y aura des tas de choses à manger. J'ai hâte, moi.
Eh bien, écoutez, mais on compte sur vous quand même pour commenter le match.
Oui.
Je préfère le repréciser. Antoine, on vous retrouvera évidemment sur le terrain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Et merci à vous.
Merci, Passez Antoine.
Une belle semaine d'entraînement et on se retrouve samedi sur les pelouses.
Très bien, ça me va.
Le club sang et or sur Totem.